Ce matin, je partage avec vous un texte de l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, les strophes 1 à 28, un texte difficile qui montre pour une fois Jésus en colère. Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples : Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse. Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des charges lourdes, difficiles à porter, pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des gens. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères. Ils agrandissent les houppes de leurs vêtements. Ils se plaisent à avoir la première place dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues. Être salué sur les places publiques et être appelé rabbi par les gens. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père, le Père Céleste. Ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous fermez aux gens le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois pire que vous. Quel malheur pour vous, guides aveugles, qui dites: si quelqu'un jure par le sanctuaire, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure sur l'or du sanctuaire, alors il est engagé. Fou et aveugle, qu'est-ce qui est le plus grand, l'or ou le sanctuaire qui consacre l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus grand, l'offrande sur l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le sanctuaire et par qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrite, vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la compassion et la foi. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Guides aveugles, qui retenez au filtre le moucheron et qui avalez le chameau. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapacité et d'excès. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux gens, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et de mal. Je vous invite à prendre le cantique 202 pour vous réconforter.
Thank you.
Nous prions ensemble. Seigneur, éclaire-nous. Au moment où nous lisons ces lignes, permets que nous y entendions notre propre édification. Permets que nous puissions nous-mêmes vivre fidèlement, que nous puissions vivre en alliance avec toi, dans la vérité et la fidélité. Amen. Vous l'avez entendu, Jésus est en colère. Hypocrite, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat alors qu'au-dedans ils sont pleins de rapacité et d'excès. Comment ne pas entendre pour soi-même une telle charge alors que nous allons partager ensemble la scène ce matin ? En mémoire d'un homme qui est mort d'avoir dit jusqu'au bout ce que sa foi lui dictait de faire en conscience et que nous aurions eu tant de mal à suivre. Purifie d'abord l'intérieur de la coupe, recommande Jésus, sans ménagement, à ses coreligionnaires. Comment nous garder de toute hypocrisie ? Est-ce possible ? Quand on parle d'hypocrisie religieuse et quand on lit ce texte de l'évangile de Matthieu avec ces pharisiens qui allongent les houppes de leurs vêtements et qui élargissent les phylactères qu'ils enroulent autour de leurs bras pour montrer leur piété et tout l'ascétisme qui les qualifie, comment ne pas penser aux Tartuffes de Molière ? Mais pourtant, il y a un autre auteur qui, analysant ce qu'est l'hypocrisie des dévots de son temps, se propose de nuancer la peinture que fait Molière de ce Tartuffe, en dressant le portrait d'un autre personnage qu'il va appeler Onufre. Un joli prénom pour vos enfants, Onufre. Voici le personnage créé par Jean de la Bruyère dans ses fameux caractères. Onufre n'a pas pour tout lit qu'une housse de serge grise, mais il couche sur le coton et sur le duvet. De même, il est habillé simplement, mais commodément, je veux dire d'une étoffe fort légère en été et d'une autre fort moelleuse pendant l'hiver. Il porte des chemises très déliées qu'il a un très grand soin de bien cacher. Il ne dit point sa haire et ma discipline, c'est une allusion directe au Tartuffe de Molière. Donc, il ne parle pas de cette grosse chemise de serge et de ce qui permet de se flageller soi-même. Au contraire, il passerait pour ce qu'il est, pour un hypocrite, et il veut passer pour ce qu'il n'est pas, pour un homme dévot. Il est vrai qu'il fait en sorte que l'on croit, sans qu'il le dise, qu'il porte une haire et qu'il se donne la discipline. S'il marche par la ville et qu'il découvre de loin un homme devant qui il est nécessaire qu'il soit dévot, les yeux baissés, la démarche lente et modeste, l'air recueilli lui sont familiers. Il joue son rôle. S'il entre dans l'église, il observe d'abord de qui il peut être vu. Et selon la découverte qu'il vient de faire, il se met à genoux et prie. Ou bien il ne songe ni à se mettre à genoux ni à prier. Il évite une église déserte et solitaire où il pourrait entendre deux messes de suite, le sermon, vêpres et complies, tout cela entre Dieu et lui, et sans que personne lui en sût gré. Non, il aime la paroisse, il fréquente les temples où se fait un grand concours. On n'y manque point son coup, on y est vu. Il choisit deux ou trois jours dans toute l'année où, à propos de rien, il jeûne ou fait abstinence. Mais à la fin de l'hiver, il tousse, il a une mauvaise poitrine, il a des vapeurs, il a eu la fièvre. Il se fait prier, presser, quereller pour rompre le carême dès son commencement et il en vient là par complaisance. Cet Onufre, dont parle Jean de la Bruyère, porte le nom d'un anachorète d'Égypte du IVe siècle qui vivait dans un dénuement tel qu'au bout de plusieurs années de privation, les poils de sa barbe et ses cheveux, par leur longueur, lui tenaient lieu de vêtements. Vous imaginez. Ce n'est donc pas un hasard si la vénération de ce saint s'est développée dans les églises de la contre-réforme, comme modèle d'ascétisme contre les débordements d'un clergé mondain. L'ironie de la Bruyère, quand il donne ce nom à son personnage, se comprend donc d'autant mieux que son Onufre, est le contraire de l'anachorète du IVe siècle. Il montre une dévotion qu'il ne vit pas sincèrement. Il aime être entouré de spectateurs pour son jeu et poursuit les richesses et les plaisirs. La Bruyère démasque le jeu de représentation que met en place son Onufre. Mais comment démasquer réellement l'hypocrisie? Qui peut distinguer la sincérité de l'hypocrisie? En grec, le mot désigne les acteurs de théâtre qui, cachés sous leur masque, représentent à la scène une passion, grâce à une grimace, à l'inclinaison des sourcils, à l'expression de la bouche ou à l'impassibilité des traits. L'hypocrite masque ses passions et en même temps les révèle. Il choisit ce qu'il veut montrer en fonction de ce qu'il veut cacher, afin de poursuivre son but. Mais ne sommes-nous pas toujours pris dans ces jeux de représentation qui fonctionnent comme des masques et qui nous permettent aussi de vivre en société avec des codes qui pourront être déchiffrés et acceptés par nos contemporains? Qui pourrait vivre dans notre société en disant, comme Onufre l'Anachorète le disait, « N'est-on pas nu devant le Seigneur, seul témoin de mon existence ?» Nous ne vivons pas en ermite, et les rapports sociaux nous obligent à porter le masque de la sociabilité. Qui, sortant de chez lui en colère, ne mettra pas le masque de la gentillesse en croisant la voisine qui ignore tout des raisons de sa colère? Qui, en entrant dans une église et redoutant de croiser celui qu'il n'a pas envie de rencontrer à cause d'une divergence de vue passée, ne mettra pas sur son visage l'expression de la plus grande politesse et peut-être même un sourire en l'apercevant dans les allées de l'église? Mais Jésus ne parle pas de ces masques de la sociabilité tournés vers les autres et qui nous permettent de vivre les uns avec les autres sans trop de violence. Il parle des masques qui dissimulent la ruse et poursuivent une intention égocentrique. Car il s'agit bien de passer pour un saint à moindre coût. En religion comme en morale, l'hypocrite se reconnaît à la façon de pointer les petites choses, celles qui ne nous coûtent rien, comme si elles étaient l'essentiel du problème, afin qu'elles masquent le véritable problème. Par exemple, reprendre à un orateur sur sa diction ou son vêtement, pour ne pas parler de ce qu'il dit et qui dérange mon narcissisme parce qu'il a touché juste. C'est le point sur lequel Helvétius, un auteur du XVIIIe, insiste dans son essai intitulé « De l'esprit ». Dans un contexte qui n'est pas exactement le contexte religieux, mais qui peut s'y transcrire aisément, il écrit « J'entends par hypocrite celui qui, n'étant point soutenu dans l'étude de la morale pour le désir du bonheur de l'humanité, est trop fortement occupé de lui-même. » Il est beaucoup d'hommes de cette espèce. On les reconnaît d'une part à l'indifférence avec laquelle ils considèrent les vices destructeurs des empires et de l'autre à l'emportement avec lequel ils se déchaînent contre les vices particuliers. L'accent est mis ici sur le dévoiement de l'intérêt général par l'intérêt privé. N'est-ce pas précisément dans un contexte politique ce que Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens dans un contexte religieux quand il leur dit « Guides aveugles qui retenaient au filtre le moucheron et qui avalaient le chameau » Combien de fois ces interlocuteurs zélés viennent-ils reprocher à Jésus des choses de l'ordre du détail? Comme par exemple, pourquoi tes disciples ne se lèvent-ils pas les mains avant de manger? Ou encore, pourquoi tes disciples arrachent des épis le jour du sabbat? Mais pendant ce temps, se soucient-ils de ce qui prive les plus pauvres de nourriture? Se demandent-ils ce qu'il faut faire pour accueillir les rejetés de leur société et manger avec eux? Ont-ils oublié l'esprit de la loi de Moïse? Martin Luther, dans sa préface à l'Épître aux Romains, définit la loi dont parle Paul. Il la définit ainsi. Le petit mot « loi » tu ne dois pas le comprendre de manière humaine, à savoir que c'est un enseignement sur les œuvres à faire ou à ne pas faire. C'est ainsi qu'il en va des lois humaines, où l'on satisfait la loi par des œuvres, même si le cœur n'y est pas. Dieu juge d'après le tréfonds du cœur. C'est pourquoi sa loi exige aussi le tréfonds du cœur. Il ne se contente pas des œuvres. Il condamne bien plus les œuvres qui ne sont pas faites du fond du cœur, comme étant de l'hypocrisie et du mensonge. Quand le réformateur écrit, il s'adresse à son lecteur en le tutoyant, car il parle à sa sincérité, à sa conscience, à ce qu'il est devant Dieu quand il sait que Dieu voit au travers de ses masques, quand il est seul face à lui. Il n'est donc pas en train de condamner quiconque, ni en train de porter un jugement moral sur un hypocrite. Il remet la loi dans la perspective de la confiance entre l'humain et son Dieu, dans la perspective de la foi. Quand agissons-nous par amour de Dieu et du prochain? Quand nos prières et nos chants sont-ils habités par cette foi confiante qui nous dispense de mettre des masques, les masques que nous avons fabriqués pour nous offrir, à bon compte souvent, une image de piété? Quand le respect de la règle occulte l'esprit de la règle, alors l'hypocrisie nous guette. En grec, le jeu de l'acteur se dit « hypocrisis », la crise sous-jacente, la crise cachée. Quelle est cette crise que nous ne voulons pas voir étalée au grand jour? Quelle est cette division intime que nous voulons cacher sous nos masques quand nous faisons passer le détail d'un rituel avant la grandeur de la grâce? Quand nous nous accrochons à des pratiques circonstancielles en les élevant au rang de tradition pour mieux juger ceux qui ne les respecteraient pas? Ne sommes-nous pas comme Onufre en Égypte ou Adam au jardin d'Éden, tous nus devant Dieu? Quelle ruse pourrait bien l'abuser, ce Dieu qui connaît tout de notre condition humaine? L'hypocrisie est un défaut de grâce, une misère spirituelle, et il n'est pas simple de pouvoir y échapper. La largesse de cœur que Dieu nous commande à son égard, mais aussi à l'égard de notre prochain, est peut-être d'abord une largesse à notre égard. Car si nous ne sommes pas convaincus que Dieu nous aime, malgré le mal que nous faisons et le bien que nous ne faisons pas, alors nous restons dans la peur d'un Dieu qui condamne ce qu'il est précisément venu sauver. Et nous nous cachons derrière les masques. Nous restons sous le régime de la loi sans vivre jamais la grâce. Et c'est précisément ce que Jésus reproche à ces spécialistes de la loi qui la comprennent si mal et qui s'en servent tellement. Et il dit à ceux qui veulent le suivre, « Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse, faites et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Jésus nous aide à obéir à l'esprit du christianisme sans nous laisser duper par ses masques. Et ceux qu'il traitait d'abord d'hypocrites, dans sa grande miséricorde, il les appellera ensuite aveugles. Aveugles sur leurs péchés, aveugles sur l'amour inconditionnel de Dieu pour eux, aveugles sur ce qui leur est offert dans la grâce. Comme ce personnage de parabole qui accueillit le fils prodigue, Dieu ouvre les bras pour nous accueillir et nous bénir. Alors de quoi manquerions-nous? Pourquoi aurions-nous besoin de nous cacher? La scène que nous allons partager ensemble, chers frères et sœurs, est la sincérité que Jésus le Christ nous propose de vivre ensemble. Une communauté d'hommes et de femmes en communion les uns avec les autres, toutes et tous aimés de Dieu et partageant le même pain, le même vin, le cœur nu devant Dieu. Amen.